Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. C'est un bonheur d'être avec vous tous les jours du lundi au vendredi jusqu'à 15h avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré. Salut Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Thierry Moreau est là aussi, salut Thierry.
Bonjour, j'ai pas misé sur votre cheval hier, mais aujourd'hui je vais miser sur votre cheval.
Oui, bah de toute façon, j'ai envie de dire. Que ça là. Fatima Benomar, la femme du mercredi, qui est là tout le temps, fidèle au poste. Ça va Fatima?
Ça va très bien, je mise sur rien du tout. Ça m'a l'air bien casse-gueule tout ça, mais bon courage à tous les joueurs.
Franchement, depuis le début de l'année, on avait vraiment assuré dans les tours.
C'est vrai,
il faut être honnête.
Faut
que parfois, il y a une petite mésaventure.
Oui.
Voilà, ça peut arriver.
Ça serait fade sinon.
Mais bien sûr,
c'est comme l'héritage, c'est au petit bonheur la chance. Donc
Ah mais pas que de la chance évidemment. Notre journaliste aux maisons, Fred Hermel, salut Fred.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour.
Allez, au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, un jeudi noir qui se profile dans les transports. Demain, faut-il instaurer un véritable service minimum dans les transports? Donnez-nous votre avis au 3216 ou sur l'application RMC, rubrique direct studio. À midi et demi, on parlera de cette réunion qui doit se tenir pour statuer sur la tenue vestimentaire des députés. Short interdit, cravate obligatoire. Les députés se doivent-ils d'être forcément bien habillés? À 13h, plus de 200 migrants bloqués sur un navire humanitaire au large de l'Italie qui ne veut pas en entendre parler. La France doit-elle les accueillir? Vos réactions bien sûr au 32-16. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et on va parler des célibataires. Sachez que financièrement, c'est une très grosse galère d'être seul en ce moment. Je me tourne vers vous, Fred et Fatima.
Et deux chats à charge.
Oui, ah oui, et bien les deux chats, attendez, c'est pire que tout. Stéphane nous en parlera à 13h50. Et puis à 14h, la proposition d'Éric Ciotti de supprimer les droits de succession et de donation. D'accord ou pas d'accord avec lui? Vous nous envoyez vos avis, bien sûr, au 32-16. Et puis le coffre RMC, Rémi.
Oui, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech grâce au coffre RMC. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant par SMS coffre au 7-32-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez soit avec un iPad, soit avec une enceinte Marshall Woburn. Et à ce moment-là, vous prenez votre décision. Soit vous gardez l'un de ces cadeaux, soit vous le remettez en jeu. Vous acceptez donc d'y renoncer, mais à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde avec à l'intérieur une télé. Oui, il y a ça notamment. Je sais que ça t'intéresse beaucoup. Mais il y a aussi une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un mini bar et un four à mini pizza. Alors, est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC? Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Minuit 8 sur RMC, RMC Story. On va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour. C'est bien sûr ce jeudi noir qui s'annonce demain dans les transports suite à un mouvement de grève lancé notamment par la CGT. 7 lignes de métro seront totalement fermées à Paris. La journée s'annonce galère pour les usagers des transports en commun, Rémi.
Oui, une journée de mobilisation interprofessionnelle et nationale sur la question des salaires et des retraites. Tu l'as dit, des perturbations surtout dans les transports et particulièrement en région parisienne. Car dans ce mouvement, la CGT quand même apparaît assez isolée. Le seul endroit où il y a union syndicale, c'est à la RATP où la CGT a réussi à rallier à elle FO, l'UNSA, la base et Solidaire. Conséquence, un trafic annoncé comme très perturbé dans le métro avec la moitié des lignes tout bonnement fermées. Grosse difficulté également à prévoir sur les lignes A et B du RER, service perturbé sur le réseau d'autobus et de tramway. À la SNCF, au niveau national, en revanche, la mobilisation s'annonce plus limitée. Aucun autre syndicat n'a souhaité suivre le mouvement initié par la CGT après une mobilisation déjà mitigée le 18 octobre dernier. Des perturbations dans les transports sont toutefois à prévoir localement, comme à Rouen par exemple ou à Montpellier. Dans les autres secteurs en dehors du transport, le service pourrait être aussi perturbé à l'école, notamment dans le périscolaire, dans plusieurs villes. Sur son site internet, la ville du Havre par exemple annonce que les accueils périscolaires et ou de cantines de certaines écoles ne seront pas assurées demain.
Alors, faut-il instaurer un véritable service minimum dans les transports? C'est la question que je vous pose et que je vous pose, Fred Hermel.
La question, c'est de se dire, mais comment est-ce possible qu'il n'y ait pas dans un grand pays comme la France un service minimum ? On se souvient que président Nicolas Sarkozy avait tenté d'imposer, en tout cas de négocier un service minimum. Ça n'existe pas.
Ah ben.
Voilà. Et demain, ça va être la galère. Parce que la galère, en fait, c'est pas simplement les gens qui peuvent pas aller à leur travail, mais c'est aussi, par exemple, les écoles. Moi, je connais des gens, il n'y a pas de cantine parce que les employés peuvent pas venir travailler. Voilà. Donc ça met en galère mais directement et indirectement des tas de gens. Et quand on regarde.
Les gens de la première ligne, hein, parce que les cadres, ils peuvent télétravailler, par exemple.
Oui, bien sûr, oui. Mais télétravailler quand tu dois garder tes gamins aussi, alors que parce que la cantine, normalement. Voilà.
Oui,
mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est gênant pour tout le monde. Le gros problème, c'est que quand on regarde un petit peu en dehors, on montre toujours l'Allemagne comme l'exemple absolu. Mmh. En Allemagne, par exemple, les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève. Parce qu'on estime en Allemagne.
Mais ils sont très syndiqués.
Oui. Mais les syndicats allemands sont très forts et négocient avant, en fait. Il y a très peu de grèves en Allemagne parce qu'il y a un vrai dialogue social.
Ils ont des syndicats qui sont forts.
Oui, alors qu'ici, justement, comme en France, les syndicats, aujourd'hui, le taux de syndicalisation, il est à peine de 10% en France. Donc, il n'existe plus les syndicats que par des gros coups médiatiques, parce que là, c'est un gros coup médiatique qui va embêter les gens parce que c'est les transports et que c'est comme la santé, hein, en fait, voilà, c'est le serre au quotidien. Mais très rapidement, moi, je pense qu'il faudrait imposer un service minimum, et je dirais même interdire la grève.
Ah non.
Je termine. Dans les entreprises, parce que l'RATP, c'est pas une entreprise, les employés sont pas des fonctionnaires. Enfin, c'est l'entreprise publique.
Enfin,
quand on a la garantie de l'emploi, je pense qu'on peut imposer les
salaires. Ils gagnent rien avec l'inflation et tout ça. Ils ont
eu 5%, 5% en 2002. 2022, 5%.
Quand t'es conducteur de métro, bah, l'RATP, donc, a priori, tu bosses dans Paris. Donc, non, tu peux pas te loger dans Paris.
Non,
donc,
ouais,
tu gagnes 1600 euros par mois. C'est pas possible. Ton premier métro, il est à 5h45. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à peu près à 5h, 5h15. T'habites à une heure de là. C'est pas des horaires faciles.
Mais bien sûr que non.
Mais est-ce qu'il faudrait. Mais bon, on peut comprendre en tout cas qu'ils négocient des augmentations de salaire. Mais Fatima, est-ce qu'on pourrait imaginer un service minimum, c'est-à-dire par exemple un métro par heure ? C'est-à-dire que ça impacte forcément le quotidien des usagers, ça permet aux conducteurs de la RATP ou aux gens de la RATP de faire grève, et quand même pour les gens qui ont une urgence et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui ne gagnent pas les 1000 et des 100, de se déplacer, quoi. Même si c'est dans des conditions altérées, évidemment.
Les conditions, c'est au syndicat d'évaluer jusqu'à quel point ça altère le rapport de force, mais il faut bien se rendre compte que le service minimum aura un premier impact, et d'ailleurs c'est son objectif, et c'est ainsi que Sarkozy l'avait pensé, puisque Sarkozy était en train d'affronter l'un des plus grands mouvements de grève qu'il y avait eu sur les retraites, c'est bien de casser la grève. Et j'alerte juste les gens qui sont emmerdés par ça, par les perturbations qu'il y aura demain, c'est se tirer une balle dans le pied sur l'unique levier de rapport de force, souvent en plus en lien avec des lois, où le gouvernement est minoritaire dans l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion publique est pour la hausse des salaires, et l'opinion publique a été déjà contre la précédente réforme des retraites et majoritairement contre celle-ci. C'est-à-dire que, souvenons-nous, il y a 3 ans, en 2019, quand il y a eu le plus grand mouvement social en France contre la réforme des retraites depuis 2010. C'était l'un des plus grands. Heureusement que la grève reconductible a tenu. Elle a commencé en septembre 2019. Les grévistes ont tenu. Ça a été historiquement le plus long mouvement de grève reconductible de la RATP et de la SNCF.
Là, il dit c'est ça ainsi.
Sauf que la réforme de retraite devait quand même passer. Il y a eu le Covid qui est arrivé, mais le gouvernement n'a pas cédé.
Est-ce qu'on se souvient de l'ampleur du mouvement, du fait qu'ils ont résisté à la trêve des confiseurs, qu'ils ont tenu janvier-février, et qu'au final, en janvier, Édouard Philippe a suspendu, il a dit qu'il allait suspendre.
À cause du Covid.
Non, je ne parle pas de mars, je parle de janvier, il allait suspendre l'âge pivot de 64 ans. Si vous vous souvenez. Et c'est par ce rapport. Et s'il n'y avait pas eu ce mouvement, parce que si vous vous souvenez, Macron, il disait qu'il fallait aller très très vite sur cette loi. Eh ben, peut-être qu'aujourd'hui, cette réforme serait passée. Donc, je sais que les moyens de la grève ont un effet de blocage, mais bientôt, il va y avoir la réforme des retraites qui nous pend en nez. Et là, la stratégie qui est mise en place, c'est juste d'affaiblir la possibilité d'un mouvement social.
Alors, avant de vous donner la parole, Thierry Moreau, je voudrais qu'on écoute Majid. Il nous appelle de Mourou, en Seine-et-Marne. Il est conducteur de métro RATP, justement. Bonjour, Majid.
Ouais, salut l'équipe, comment ça va ?
Bah bien, et vous, Majid ?
Bah impeccable. J'entends parler là sur votre plateau de service minimum, mais c'est juste pas possible.
Mais pourquoi ?
Tout simplement, moi demain je suis réquisitionné pour rouler sur ma ligne, je me porte pas, et malheureusement ce sera pas moi qui vais payer ma grève, ce sera vous tous, la sécurité sociale, qui va payer ma grève.
Ouais, mais Majid, je comprends ce que vous dites Majid, mais ça veut dire que pour vous, il y a aussi un embêtement, c'est-à-dire qu'il faut aller chez le médecin, il faut trouver un médecin qui va vous faire un arrêt maladie, enfin voilà, ça veut dire que ça vous ennuie aussi quoi.
Oui, ça m'ennuie.
Et puis si vous prenez, et puis il y a un truc qui s'appelle les jours de carence, si vous prenez de toute façon un jour d'arrêt maladie, vous serez pas payé. Donc
effectivement, si je prends un jour de maladie parce que je suis en réquisition, c'est pas un jour de maladie. Je me porte pas, je simule, très bon comédien, je suis en arrêt pour la semaine.
C'est pas génial, ça quand même, Majid.
Ah non, c'est pas génial, je suis d'accord. C'est pour ça qu'au lieu de réfléchir à un service minimum, il faut réfléchir à comment renégocier avec la direction. Il faut réfléchir à comment discuter et avoir des négociations correctes et non pas les 0,4%, parce qu'on parle de 5%, mais 5%, je les vois pas moi.
Mais elles ont commencé lundi, les négos. On est mercredi, Majid.
Oui, pour qu'elles se terminent comment? Avec 0,6. Bon,
mais elles sont pas terminées. Il suffit de continuer à négocier. Je veux dire, c'est à un moment, vous négociez lundi, vous pouvez continuer mardi. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de dire tout de suite, on fait rien.
Non, aujourd'hui, malheureusement, on est obligé d'engager un rapport de force avant les négociations pour pouvoir obtenir quelque chose, sinon tout ne fait rien. C'est pas compliqué. On pourra jamais rien obtenir. On a une direction qui est muette et qui parle de social dans l'entreprise, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Mais vous avez conscience quand même, Majid, que là, effectivement, ce qu'on disait, demain, il y a des gens qui peuvent télétravailler. Et souvent, c'est plutôt les gens qui gagnent bien leur vie. Les cadres, ils peuvent. Et en revanche, quand vous êtes caissière, vous pouvez pas télétravailler. Quand vous êtes femme de ménage, vous pouvez pas télétravailler. Donc en fait, l'embêtement, il va être maximal pour des gens qui, eux aussi, ne gagnent pas bien leur vie, ce qui était le cas également pour la grève de Total.
Ça, c'est une rhétorique qu'on entend toujours. On entend toujours parler du plus faible, mais les plus faibles aussi, il va falloir à un moment donné aussi qu'ils se mobilisent pour obtenir quelque chose.
Ils ne se mobilisent pas.
Mais ils ne peuvent pas se mobiliser.
Parce qu'ils perdent leur emploi, la femme de ménage qui prend le métro tous les matins pour aller bosser, elle ne peut pas se mobiliser toute seule. Et par contre, demain, elle ne peut pas se mobiliser.
Le ruissellement des luttes, ça n'existe pas.
Les Spatignoles ont gagné.
Le ruissellement des luttes, ça n'existe pas.
Les salariés, pas les femmes de ménage, c'est des particuliers. Tu vois ce que je veux dire?
Ça, c'est sûr que là où les syndications est la plus faible, et en fait, ça pose vraiment la question du démantèlement, en fait, de la possibilité d'organisation de certains métiers.
Le ruissellement des luttes,
parce qu'ils sont soumis à l'intérim, etc.
Thierry Moreau.
Alors, le service minimum est impossible, on le voit. Soit on fait une escroquerie de se mettre en maladie plutôt que de se faire réquisitionner.
Après, il est honnête, hein, Majid.
Il nous le dit très franchement, mais c'est l'escroquerie. Il y a aussi la grève perlée. Vous savez, vous mettez 59 minutes en arrêt au début de votre prise de service. Ça n'est pas considéré comme une journée de grève et ça perturbe le service. Non, le service minimum est impossible. Les ultras et les jusqu'au boutistes comme Majid, ils trouveront toujours des manières de contourner. La seule solution, ça sera les lignes automatiques.
C'est ce que j'allais dire. Parce que demain, il y en a deux qui fonctionnent. Voilà. Parce que je crois que c'est la 1 et la 13.
La 1 et la 14.
La 13 ne fonctionne pas. Parce que justement, elle est automatique. Donc,
je voudrais terminer.
C'est scier la branche sur laquelle on est assis.
Oui, donc des lignes automatiques, de plus en plus de lignes automatiques. L'ouverture à la concurrence aussi, parce que par exemple pour les bus en 2025 sur Paris et la Petite Couronne, il y aura enfin de la concurrence sur les bus, donc on verra peut-être s'il y a d'autres services qui sont plus efficaces, et puis surtout une représentation syndicale plus homogène. Moi, ce qui me gêne dans ce que dit Majid, c'est que aujourd'hui il y a un système qui s'appelle l'alarme sociale. C'est un accord qui a été signé en 1996 avec la RATP, l'ensemble des syndicats sauf la CGT qui a rejoint en 2001, sauf métro et bus. Ok, l'alarme sociale, c'est simple, c'est on négocie. Ensuite, il y a une médiation et ensuite, il y a la grève. Non, eux, ils préfèrent ce qu'on appelle les préavis dormants. Vous savez qu'à la RATP, il y a des préavis qui durent jusqu'en 2045, voire 2050, ce qui leur permet d'activer un préavis quand ils veulent. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Et donc ça, dans un pays... C'est malin, mais c'est scandaleux. Je suis désolé, parce que les gens, la photo qu'on voit derrière vous, des dizaines et des dizaines de gens qui galèrent pour aller travailler, qui sont payés au SMIC, eux, ils n'ont pas la sécurité de l'emploi.
Et le problème, c'est bien qu'ils sont payés.
Excuse-moi, Fatima, le ruissellement des luttes, c'est-à-dire on est à l'avant-garde et ce qu'on va gagner va ruisseler sur les autres, c'est de la connerie, ça ne marche jamais. Voilà.
Rémi, je voulais juste vous poser une question. C'est qu'on avait quand même l'impression qu'avec Nicolas Sarkozy, justement, il y avait le service minimum. Et on se rend compte que finalement, pas du tout. Quoi.
En théorie, il existe, le service minimum. C'est une théorie. C'est l'une des mesures symboliques du quinquennat Sarkozy. Tu l'as dit, l'obligation d'assurer un service minimum pour limiter les désagréments pour les usagers durant les grèves des transports. Concrètement, la loi, elle existe. Elle a été votée en 2007. Elle oblige les grévistes à informer leur direction de leur participation à un mouvement social 48 heures à l'avance, ce qui doit permettre à ce moment-là à l'entreprise de s'organiser et d'informer les usagers, s'organiser pour assurer ce fameux service minimum. Le niveau précis du service minimum est lui renvoyé en fait à une décision de l'autorité organisatrice de transport, très concrètement.
D'accord.
Plusieurs accords ont été signés, notamment en région parisienne pour la SNCF. En fait, quand il y a un mouvement de grève à la SNCF en région parisienne, ça concerne le RER, eh bien 50% des trains sont censés circuler en heure de pointe sur les lignes A et B du RER. Et la RATP doit assurer un service de 25% pour les métros, bus et RER. Bah, problème, et on l'a dit, le nœud du problème, il est là. La loi ne prévoit pas la réquisition des grévistes pour assurer le service minimum. Si la mobilisation est forte ou si la mobilisation s'organise pour faire en sorte qu'il y ait des blocages, comme on l'a dit, 9 minutes de grève, ou alors s'il y a trop de conducteurs en grève, ou qui sont malades, eh bien, à ce moment-là, le service minimum ne peut pas être assuré. Contrairement à ce qui se passe, par exemple, à l'hôpital, où à l'hôpital, les salariés, enfin, les employés peuvent se déclarer grévistes, mais sont réquisitionnés, donc sont à leur poste, on comprend pourquoi, avec un brassard en grève. Ils sont grévistes, mais ils sont au boulot.
Fatima, vous voulez apporter une précision?
Oui, déjà, ce qui me gêne justement, c'est que tant de personnes qui galèrent soient au SMIC. C'est pour ça qu'en fait, on est sur une revendication de hausse des salaires. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a pas d'effet d'entraînement. Je vous conseille encore une fois d'aller voir ce magnifique documentaire qui est dédié aux femmes de chambre d'Ibis Patignol, qui explique très bien qu'au début de leur mobilisation, la direction des grands hôtels n'en avait rien à faire d'elles. C'est au moment où elles ont décidé d'élargir leur mobilisation, de demander la solidarité aux autres, notamment au mouvement féministe, etc., au mouvement antiraciste. C'est là que le rapport de force et que finalement les boîtes ont cédé. La deuxième chose, et tu fais bien d'en parler justement, de cette réforme d'ouverture, enfin ce projet de réforme d'ouverture de la concurrence des bus RATP, qui peut justement, l'une des menaces de cette réforme, c'est qu'elle risque de peser sur les salaires. Qu'est-ce que disent les salariés de la RATP? C'est qu'ils disent que comme il y a une énorme part du salariat qui est lié aux payes qui est dans le budget de la RATP, le seul levier qu'auront les entreprises privées pour remporter le marché en proposant la formule les moins chères, c'est bien de baisser ou bien les salaires ou bien de peser sur les conditions de travail et sur le nombre de personnes qui vont devoir conduire.
Alors moi j'ai juste une question à te poser. Très rapidement. Les 8% obtenus dans les raffineries, est-ce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui dans leur TPE et PME ont obtenu 8% d'augmentation cette année? Non. Le ruissellement des luttes avant-gardistes, ça ne fonctionne pas.
Moi, je ne parle pas de ruissellement. Okay. Je n'utilise pas des mots comme ça qui sont inspirés d'autres fake news, on va dire. Mais en tout cas, je parle de solidarité, en fait, dans les mouvements. Et oui, effectivement, quand il y a des luttes victorieuses, eh ben, ça donne de l'espoir et de la mobilisation aux autres parce qu'elle parle de modèle. Je sais que quand il y a eu la victoire des Ibis Batignolles, il y a d'autres mouvements qui se sont organisés en disant qu'ils pouvaient gagner.
Alors, on est avec Arnaud qui nous appelle de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Arnaud qui est cadre dans l'électronique et qui risque d'être embêté par la grève demain. Bonjour Arnaud.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour Arnaud.
Vous faites comment demain Arnaud?
Alors je fais comment? Ça va être une grande histoire puisque comme je disais tout à l'heure à votre collaborateur au Standard, je vais très certainement être obligé de prendre une chambre d'hôtel sur Paris pour être demain remplir mes obligations professionnelles que je ne peux pas décaler parce que je ne peux pas télétravailler demain en étant cadre.
D'accord.
Tous les cadres ne peuvent pas télétravailler.
Oui, bien sûr. Vous avez raison.
Non, c'est pour la blague. La conséquence que ça a aussi, c'est que j'ai 3 autres collaborateurs qui sont concernés, donc ça veut dire 3 autres nuits d'hôtel. Donc en fait,
c'est vous qui l'a payé la nuit d'hôtel ou c'est votre société?
Non, c'est la société qui paiera la nuit d'hôtel. D'accord. La conséquence de tout ça, quand même, malgré tout, c'est qu'on a chiffré nous l'impact qu'aura la grève sur l'entreprise. Donc c'est à peu près avec toutes les contraintes que ça impose entre 1000 et 1500 euros. D'accord. Ouais. 1000 et 1500 euros qui ne pourront pas être distribués aux collaborateurs par le biais de la prime annuelle qu'on octroie.
Ouais.
Et ben voilà.
C'est ça. Donc ça vous pénalise.
Le service public est essentiel. Parce que nous sommes clients, hein, faut pas l'oublier, de la RATP et non pas usagers, parce que quand vous payez pour un service, vous êtes client. Donc aujourd'hui, c'est très bien, j'entends très bien que les conditions de travail peuvent être très pénibles pour les collaborateurs de la RATP. J'en suis témoin tous les jours, puisque je prends le métro tous les jours.
Tout à fait.
Parce que nous avons
ça, il n'y a pas de débat, on est d'accord.
De demander à nos collaborateurs, pour des raisons de préservation de la planète, d'utiliser en priorité les transports en commun.
C'est ça.
Donc on nous empêche de le faire. Demain, c'est soit je prends mes baskets pour faire 7 km à pied pour me rendre sur le lieu de mon rendez-vous.
Non, c'est pas possible.
Soit je prends une nuit d'hôtel. Donc je prends une nuit d'hôtel. J'ai 3 autres collaborateurs à qui on donnera la nuit d'hôtel.
Et donc ça impacte les collaborateurs et l'entreprise.
Mais vous-même, vous dites que... pour des raisons écologiques, il faut soutenir le service public du transport. Sachez bien que c'est le fait qu'il soit attractif qui va permettre de le pérenniser. C'est-à-dire que leur revendication, encore une fois, c'est leur salaire et leurs conditions de travail.
Mais ça le rend pas attractif. Moi, Fatima, franchement, mais ce matin, c'est ce que je me disais. Moi, ma ligne, elle est fermée, par exemple. Bah, donc demain, je peux pas prendre le métro. Je veux dire,
je parle de leur fiche de paie.
C'est qu'à un moment, on te dit, faut plus prendre la voiture. Ah bah écoute, super. Bon bah alors, plus prendre la voiture. Bah les gens, en fait, je parle des gens qui gagnent pas bien leur vie. Bah de toute façon, ils peuvent pas acheter une voiture. On en a parlé hier dans Estelle Midi. Il y a plus de voitures à moins de 10 000 euros. Donc les gens, ils peuvent plus. Donc on leur dit, en fait, il faut qu'ils prennent les transports en commun. Alors déjà, bon, il faudrait que les transports en commun soient mieux maillés. Mais là, attendez deux secondes, Arnaud. Donc on te dit, il faut prendre les transports en commun. C'est une galère de prendre les transports en commun. Tu peux plus prendre ta voiture. Va y avoir les ZFE. Tu peux plus acheter de voiture, c'est trop cher. Tu peux plus prendre les transports en commun. Mais comment tu fais, en fait? Aujourd'hui, comment tu fais?
Il faut un service public du transport qui soit plus performant, avec plus d'embauches et avec des salariés
mieux payés. Mais ils ne veulent pas être embauchés, Fatima. C'est ça le problème.
Tu vois pas la cause à effet? Bah, c'est sûr que si les salaires sont plus attractifs et que s'ils font moins d'heures, tout simplement, parce que là, il faut bien se rendre compte que le fait qu'il n'y ait pas assez de salariés, je sais pas si tu as déjà vu un moment, j'attendais le bus la dernière fois, où ils faisaient attendre pendant je ne sais pas combien de minutes
parce qu'ils
n'avaient plus personne pour conduire les bus. Donc, à un moment, il faut rendre ce travail attractif avec des salaires dignes. On parle juste de rattraper l'inflation. Hein. Ils sont pas en train de demander des milliers de cents ou des salaires de cadre.
Alors, je voudrais juste... merci beaucoup, Arnaud, d'avoir été avec nous. Vincent nous appelle d'Herblay. Alors, c'est intéressant parce qu'il est chef d'équipe RATP depuis 23 ans. Bonjour, Vincent.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Vincent, vous gagnez. C'est indiscret ce que je vais vous demander, mais comme ça, voilà, on aura des chiffres. Vous gagnez combien au bout de 23 ans, Vincent ?
Alors, en étant responsable d'une équipe de contrôle, si j'enlève avec les primes, ça fait 2300 euros net.
D'accord. Après 23 ans d'ancienneté. Et un conducteur RATP, il est à combien ?
Un petit peu plus, parce qu'il a des primes, mais je voudrais vraiment pas de ses conditions de travail qui sont bien plus terribles que les miennes.
D'accord.
Juste pour revenir sur votre débat, parce que pour répondre à Fred, on parle bien du service minimum, mais on n'arrive déjà pas à trouver de conducteur. Pourquoi?
Poser
les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'il y a le salaire qui n'est pas terrible. Depuis 2009, tout entrant à la RATP n'a plus du tout la bonification du 1/5, c'est-à-dire pour partir à la retraite 5 ans avant, vous savez.
Tout à fait.
Voilà. Donc, on n'arrive déjà pas. Il n'y a pas les bons salaires. Il y a des horaires qui sont terrible. Moi, j'ai vu des conducteurs dormir dans le dépôt par terre pour pouvoir poser leurs vacances quand je suis rentré à la RATP. Ils dormaient. Ils venaient sur des jours de repos 3-4 jours pour pouvoir poser leurs vacances au mois d'août. Parce qu'il y avait c'était le premier qui arrivait, le premier qui posait. On n'arrive déjà pas à trouver. Alors, un service minimum, Fred, c'est bien. Mais je vois vraiment pas comment vous allez le mettre en place. On n'arrive pas à trouver de conducteurs. Que moi, je me plains pas de mon salaire, je vais vous dire. Je suis rentré à la RATP, on m'avait dit votre salaire ne sera pas terrible, mais vous partirez à la retraite de bonne heure. Maintenant, on me dit on va vous mettre 2 ans de plus. Donc, le contrat, vous voyez, il ne le respecte même plus. Actuellement, moi, maintenant, je ne rentrerai pas à la RATP.
On a changé les règles du jeu en cours de match, quoi.
Oui, voilà. Alors, j'entends Fred qui va me dire ceci, cela, mais si on fait un contrat avec un énorme patron de chez Total et qu'on casse le contrat, il va vous dire oui, il va vous dire non. Moi, j'ai un contrat, je veux qu'on le respecte. Alors, maintenant, on m'aurait dit, quand je suis rentré à la RATP, on m'a dit, le salaire n'est pas terrible, vous avez une bonne retraite. On m'aurait dit, voilà, le salaire n'est pas terrible et vous n'aurez pas une retraite avantageuse. Ben, je ne serais pas rentré, j'aurais été ailleurs.
Le changement de règles, ça évidemment c'est pénalisant.
Vous avez toujours la garantie de l'emploi. Vous avez la garantie de l'emploi, Vincent. C'est un avantage aussi, quoi.
Quand tu signes pour un contrat et tout d'un coup
Fred,
ça on est d'accord.
Ce que dit notre auditeur est légitime. Les gens, ils sont mal payés. Les gens, ils ont des horaires de chien. Ok, mais sauf que
il n'y a plus la garantie d'emploi, Fred. Ils sont virés du jour au lendemain.
Non, c'est pas vrai.
Mais non. Vous venez en antenne, mon nom, vous m'invitez à l'antenne. J'amène mes fiches de paie, je vous amène mes collègues et vous allez voir, ils sont virés. Qui est parti à la police municipale.
Ok. Merci Vincent. Juste.
Ce que dit Vincent est important. Les salaires ne sont pas assez importants. Il n'y a pas assez de conducteurs. Sauf que dans une société normale, on passe par une négociation, une médiation, et seulement on déclenche la grève. On ne déclenche pas la grève, comme l'a dit Estelle, 2 jours après l'ouverture des négos, sous prétexte que les négos n'avancent pas assez vite.
Combien de temps qu'on en parle?
Ils ont obtenu.
Ils ont ouvert lundi les négociations. Ils ont déjà 5,2. L'inflation est à 6,7. Ils vont sans doute obtenir le delta d'ici décembre. De quoi se plaint-on?
Alors, en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il imposer un service minimum dans les transports, Rémi?
C'est très populaire, cette idée de service, de véritable service minimum dans les transports en commun, puisque c'est un oui, 74%. les trois quarts de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux sont pour ce service minimum.
Alors dans un instant, on va parler d'une réunion insolite qui va se tenir dans quelques heures à l'Assemblée nationale. C'est une réunion pour statuer sur la tenue vestimentaire des députés dans l'hémicycle. Est-ce que nos députés se doivent d'être bien habillés? On attend vos réactions au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 34 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel. Et on va s'intéresser tout de suite à la réunion du jour. C'est celle qui va se tenir cet après-midi à l'Assemblée nationale pour statuer sur la tenue vestimentaire des députés dans l'hémicycle. Les shorts, il ne va pas y en avoir beaucoup quand même, devraient être interdits. La cravate rendue obligatoire. Mais que dit le règlement aujourd'hui, Rémi?
C'est pas la première fois que la tenue vestimentaire des députés est au centre des polémiques. En juillet 2017, déjà, l'Assemblée nationale avait donné le droit aux députés de siéger sans veste ni cravate suite à la demande de qui? Des députés LFI. Selon le compte-rendu du bureau de l'Assemblée en date du 19 juillet 2017, aucune disposition réglementaire ne fixe la tenue vestimentaire des députés. Ce qui avait suscité ce commentaire de Jean-Luc Mélenchon, il y avait des sans-culottes, il y aura maintenant des sans-cravates. Pourtant, si l'article 9 de l'instruction générale du bureau ne prévoit aucun code vestimentaire particulier, il y a tout de même une subtilité. Le texte précise que la tenue des députés doit tout de même s'apparenter à une tenue de ville.
C'est quoi une tenue de ville?
Justement, c'est très flou et donc ça permet de multiples interprétations au sein de l'hémicycle. En revanche, la tenue vestimentaire doit être neutre, ça c'est certain. Les signes religieux ostensibles, logos, messages commerciaux, slogans politiques ou uniformes professionnels sont tous proscrits au sein de l'hémicycle.
Alors les députés se doivent-ils d'être bien habillés? Thierry Moreau.
C'est une question un peu compliquée. En fait, la règle qui devrait être celle non écrite, qui devrait être celle en vigueur, c'est une tenue correcte, tout simplement.
Mais c'est quoi une tenue correcte?
Une tenue correcte, qu'est-ce que c'est effectivement? Qu'on soit obligé de le rappeler, de débattre de ça, est déjà un problème. Ensuite, je pense que les Français sont très contradictoires sur cette question. D'un côté, ils veulent que leurs représentants qui les représentent, justement, soient, y compris dans leur tenue vestimentaire, les représentent bien. Ça, je pense que c'est un vrai sentiment qui est ancré dans la tête des Français. De l'autre côté, ils veulent que les députés leur ressemblent. Donc, il y a une contradiction, parce que s'ils nous ressemblent, ils n'ont pas forcément de cravate et de veste tout le temps. Alors, moi, j'ai envie de dire que la vérité, elle est sans doute entre les deux. Moi, je ne veux pas que mon député arrive dans l'hémicycle comme un loqdu, ça c'est clair. Je veux qu'il soit bien habillé, correctement habillé. Je pense que la notion de correct, elle est à peu près admise par tout le monde. Je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre sur ça, mais le plus important, c'est qu'il fasse bien son travail. C'est ça, quand même, le plus important.
Fatima Benomar, est-ce que c'est important d'être bien habillée dans l'hémicycle quand on représente les citoyens, justement?
Je suis pas d'accord quand tu dis que le terme correct est quelque chose qui est perçu de la même manière par tout le monde. Et je pense que c'est vraiment un mot qui peut être traversé par beaucoup de biais, notamment sexiste et raciste par ailleurs. Et j'ai déjà vu au boulot une personne, par exemple, qui avait dû raser ses dreads parce que c'était perçu comme quelque chose qui était déclassé.
Oui, mais là, c'est pas une tenue. Tu peux être député avec des dreads.
Je dis juste que le style n'est pas quelque chose d'aussi neutre que l'on pense. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand ils disent qu'ils doivent venir bien habillés, puis juste après, la cité de la personne, une personne en jean et en chemise, je vois pas encore en jean et en chemise, on est mal habillé. Pour moi, l'Assemblée nationale n'est pas un lieu de cérémonie. Pour moi, c'est vraiment une assemblée du peuple qui est le premier problème, c'est qu'elle est hélas très très peu représentative. C'est-à-dire qu'il y a une sous-représentation énorme des ouvriers et des employés.
Oui, 2017.
Un peu plus, mais surtout une sur-représentation énorme des cadres. Et pour moi, c'est une tentative un peu d'uniformisation pour invisibiliser en fait cet état de fait. C'est-à-dire qu'on essaye que les personnes se ressemblent un peu pour ne pas amener leur dehors de classe. Moi, par exemple, quelque chose qui me plairait beaucoup.
Sur les femmes, hein, par exemple.
Femmes, typiquement, la cravate, on dirait, ils y ont même pas.
Oui, mais ça, c'est pour les femmes. Les femmes, elles peuvent venir en robe comme elles veulent, de n'importe quelle couleur.
Et d'ailleurs,
comme
me souviens qu'avant, quand l'Assemblée était moins féminisée, ça me choquait toujours cette idée de voir tous les hommes qui faisaient bloc, qui se ressemblaient un peu, puis les femmes qu'on voyait un peu dispersées avec des tenues et des couleurs différentes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que moi, ce qui me plairait un jour, c'est de voir des gens avec leur bleu de travail, avec, en fait, venir comme ceux qui sont représenter. Et justement, en fait, on essaye de camoufler un peu cet état de fait en demandant une sorte d'égionisation sur plutôt les attributs classe plus supérieur, on va dire. Typiquement, donc on sait que la cravate est un apparat de classe. Et d'ailleurs que souvent,
il y a peut-être envie de venir en
souvent dans maintes romans, on disait que quand une personne voulait se fondre, elle sortait, elle voulait se fondre, aller en ville pour faire sa carrière, etc. Et ben, elle allait mettre, on va dire, des dehors de classe plus bourgeoises et notamment la cravate. Ouais. Moi, je pense que vraiment, ce que les gens reprochent en général aux députés, c'est qu'ils sont faux, c'est qu'ils font ça pour leur carrière, ce qui n'est pas complètement faux, et c'est qu'ils ne les représentent pas.
Quand on met un t-shirt, il fait ça aussi pour le show. Hein.
Oui, parce qu'il vient d'une école privée, il vient d'une famille bien bourgeoise, il a fait la même école privée.
T-shirt de foot que Macron. Fait rappeler.
Donc, c'est pour le show. Pas surtout une loi pour les LFI finalement.
Mais bien sûr que si. Mais c'est là où Fatima, je pense que tu te trompes, parce que lors des grands meetings, du Ton, il y avait un grand parti communiste en France de Georges Marchais. Les ouvriers, ils étaient costume cravate parce qu'on s'habillait pour aller écouter Georges Marchais. Et c'était d'un autre niveau intellectuel que Macron. Les années 70-80, il y avait c'est un événement. Après, quand tu dis que ça doit pas être une cérémonie, ben si, c'est la cérémonie de la démocratie. Et donc pour moi, l'Assemblée nationale,
pas être en future, par exemple, sur une cérémonie.
Non. Et d'ailleurs, moi, quand le président Macron était apparu en future, j'aime pas, je trouve que quand on est président, on est dans son bureau.
Excuse-moi, il y a quand même une évolution. Entre la photo officielle du président de la République en frac dans les années 70, comme pouvait l'être De Gaulle avec toutes ses médailles, et aujourd'hui le fait de juste porter une veste ou un sweatshirt quand on est au bureau pour travailler.
Simplement, j'ai regardé mon contrat. Voilà. Avant de venir, j'ai regardé mon contrat. Moi, je suis pas grand-chose. Je suis un petit journaliste. Article 12, tenue vestimentaire. Dans le cadre de ses fonctions, le salarié devra adopter une tenue vestimentaire correcte, telle que définie par la société.
Ça veut dire quoi?
Que n'importe quel employé de France, il a un contrat, il doit respecter une certaine correction dans sa manière de s'habiller. Donc c'est quelque chose qu'on demande à un simple employé.
Quelqu'un qui a 21 ans, c'est pas la même que quelqu'un qui a 60 ans.
En plus, il y a différentes cultures d'entreprise et au contraire des grosses entreprises qui vont valoriser le côté.
Oui, mais justement, c'est l'entreprise qui le demande. Ce que dit Fred, par exemple, ici, nous qui sommes là, moi, quand on m'a appris avec grand bonheur que j'allais participer à l'émission, on m'a dit tu mets une chemise.
Ben bien sûr. Mais pas respect pour
toi. Mais tu serais pas mis en t-shirt de toutes les manières.
Mais je trouve ça normal. Voilà. Moi, j'adore porter
c'est
les
pas un problème.
Mais je viens pas en Marseille ici. Après, on voit que je suis un peu baraqué, donc ça souligne mes muscles. Mais bien sûr. Et donc, à partir du moment et penser que on veut que les députés nous ressemblent, etc. Non, le député il ressemble quand il ressemble au club quand le week-end il a l'inauguration de la salle des fêtes, quand il va, quand il est présent dans sa circonscription, quand il sert la paluche à tout le monde. Là, il ressemble aux gens. Quand il va représenter ces gens à l'Assemblée, je suis désolé, il y a un minimum. Pour moi, le minimum pour un homme, c'est une veste. C'est tout.
Fatima, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de règles pour les femmes? C'est quand même très étrange. C'est-à-dire qu'on parle que des hommes dans cette loi et finalement, les femmes ont le droit de faire. Est-ce que c'est plutôt une avancée ou est-ce que ça veut dire finalement on est quantité négligeable?
Parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qui est correct pour une femme. C'est-à-dire qu'une femme, quoi qu'il en soit, quand elle s'habille de manière. On va brocarder les femmes qui vont s'habiller de manière dite masculine à l'Assemblée nationale.
Jamais.
Voilà.
Jamais.
Si. Et quand elles sont trop féminines, le jour où Cécile Duflot a le malheur de porter une robe, on la cible. Donc en fait, les femmes, tout simplement, on n'arrive jamais à les caser et elles sont tout le temps elles-mêmes en train de naviguer pour trouver le bon style.
C'est pas vrai, parce qu'il y a un certain nombre de députés ou d'élus comme Roselyne Bachelot qui mettaient un point d'honneur à avoir des couleurs vives parce que comme ça leur permettait le jour de la question, ces questions écrites, on les voyait de loin et donc elles étaient tout de suite identifiées.
Je pense qu'elle va me comprendre, il y a plus de débats quand une femme doit préparer un entretien d'embauche, etc., à comprendre ce que la société attend d'elle et dans quel contexte, et elle est toujours dans l'injonction contradictoire de la féminité, de la neutralité de genre. Donc, en fait, les femmes doivent tout le temps naviguer dans quelque chose qui représente, en fait, les ambiguïtés du regard que la société pose sur elle et sur son corps.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, je vais schématiser ce que dit Fatima, mais en fait, quand t'es une femme et que t'as un entretien d'embauche, par exemple, tu vas te poser la question de comment tu dois t'habiller.
Moi aussi.
Non, mais attends, excuse-moi, toi, tu vas te poser quelle question? Tu vas te dire juste, est-ce que je mets telle cravate ou telle cravate?
Mais tu sais que. Mais non, mais est-ce que je mets un jean ou pas?
Est-ce que je mets un jean? Est-ce que je mets une chemise?
Absolument.
Une veste avec t-shirt?
Absolument.
Et suivant la soirée.
En vrai, tu vas être bien habillé. T'es un mec, tu fais une veste, une chemise, et basta. Tu vas être bien habillé. Nous, on va te dire, est-ce qu'il vaut mieux une robe ou pas une robe? Est-ce qu'une jupe, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'un jean, ça fait pas trop ceci?
Jean ou pas jean?
Chaussure à lacets ou pas à lacets, cravate ou pas cravate, t-shirt sous la chemise ou pas
t-shirt,
pochette. Aujourd'hui c'est pareil.
Non, c'est pas pareil. Et comme disait Simone de Beauvoir, en fait, les hommes étant perçus comme le genre neutre, le genre, on va dire par défaut, et les femmes c'est l'autre, c'est-à-dire que les femmes doivent tout le temps définir leur genre. Et donc en fait, les femmes, par exemple, au début de leur carrière ou au début tout simplement des premiers jours, elles vont s'habiller peut-être de manière dite féminine ou perçue comme sexualisée, ce qui d'ailleurs est très vite. Et à un moment, avec des représailles de stigmatisation, etc., elles vont se reneutraliser, se masculiniser. Ça, ce sont tout simplement des phénomènes de sociologie qui tout simplement trahissent le fait qu'on ne résout pas la question de la présence des femmes dans l'espace public et dans le regard des autres.
Et Raquel Garrido, là, elle a été quand même pas mal moquée il y a quelques mois pour une robe.
Donc
voilà, bah, bien sûr, mais on est d'accord. Personne n'aurait dit ça à un garçon.
Ça vient d'où?
Si un garçon s'habille n'importe comment dans l'Assemblée, il va être moqué.
C'est pas s'habiller n'importe comment, c'est qu'il y a des vêtements qui sont plus faciles à porter que d'autres. Donc voilà.
Je pense simplement que finalement, la question ne se passe pas pour les femmes, parce qu'en général, les femmes savent mieux s'habiller que les hommes.
Je pense que c'est pas ça. Enfin bref. Les députés se doivent-ils d'être forcément bien habillés? C'est la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Alors, Estelle Midi, Rémi.
Une tenue correcte exigée par 85% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Bien sûr.
Enfin, on va revenir, mais que veut dire correct? Et hop, c'est reparti, une pièce dans la machine. Dans un instant, tiens, un garçon très correct, c'est Anthony Morel qui va nous parler dans Estelle Midi des supermarchés du futur, ceux qui nous attendent dans quelques années dans les rayons des supermarchés. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 49 sur RMC, RMC Story, on est ensemble jusqu'à 15h et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Anthony, avec vous, on va faire nos courses dans le supermarché du futur. Quelles sont les innovations à venir?
Alors, de l'intelligence artificielle absolument partout et jusque dans les caddies. Voilà, les caddies du futur vont un peu vous étonner, ils vont vous permettre de faire vos courses, ça c'est pas mal, mais ils vont surtout vous permettre de ne plus avoir besoin de passer à la caisse. Vous allez payer directement grâce au caddie.
Ah bon?
Ouais, absolument. Alors c'est Amazon qui teste ça aux États-Unis, c'est pas les seuls, il y a plusieurs startups aussi qui se sont lancées là-dessus. Donc ça ressemble à un caddie presque normal, sauf qu'il est bardé de technologies, de capteurs, de caméras. Il va comprendre en temps réel tout ce que vous posez à l'intérieur. Hop, j'ai posé un paquet de gâteaux, hop, non, je l'ai enlevé finalement. Il y a une balance intégrée qui analyse le poids des fruits et légumes, donc il n'y a pas besoin de passer à la pesée. Vous avez un écran à l'avant qui va suivre votre panier en temps réel, comme quand vous faites vos courses sur Internet, vous savez. Donc là, en ce moment, avec l'inflation et voilà, le pouvoir d'achat un peu contraint, on sait exactement à l'euro près où on en est à chaque fois qu'on prend un conduit. C'est pas mal. Si on a une limite, voilà, aujourd'hui, c'est pas plus de 50 euros, on sait exactement où on en est. Et une fois qu'on a fini, alors oui, non, petit point, dernier petit point bonus, c'est quand vous êtes paumé dans un grand magasin, un grand supermarché, il va vous géolocaliser. Ah bah oui, attendez.
On ne faut pas exagérer.
Attendez, la trajectoire optimale, vous tapez dentifrice sur la petite tablette, hop, il vous dit, prenez le rayon fromage, vous tournez.
Il va vous faire passer aussi par certains où ils veulent vous faire passer. Mais attention au marketing.
Vous avez l'esprit très mal tourné, mais c'est probable. Vous avez raison.
Mais en revanche, est-ce que quand même ça va pas favoriser le vol à l'étalage? Vous voyez ce que je veux dire? Un petit paquet de bonbons dans la poche et hop.
Alors normalement, comme ces caddies sont équipés de caméras, de scanners, et que vous avez des caméras un petit peu partout, je suis pas sûr, mais vous avez raison, c'est une question qui se pose. Et à la sortie, le truc, c'est que vous n'avez plus besoin de passer à la caisse. Vous passez juste votre téléphone portable sur la petite borne, sur le caddie. Tout a été pris en compte et voilà, et vous pouvez repartir tout simplement.
Donc il n'y aura plus de file d'attente à la caisse, que ça c'est un problème.
Il n'y aura plus de file d'attente. Ah oui, puis alors il y a le syndrome, vous savez, quelle que soit la file d'attente que vous choisissez, c'est toujours celle d'à côté qui va plus vite.
Ah mais moi je mets toujours à mes enfants à la file d'attente d'à côté.
Ça c'est très malin, c'est une bonne technique, effectivement. Mais bon, on n'a pas tous des enfants, donc c'est pas toujours évident.
Prenez les enfants des autres.
Oui, c'est vrai, vous allez rester la prochaine fois. C'est pas mal, il y a peut-être un business à monter. Alors là aussi, il y a des solutions qui sont en train d'arriver. On va en fait installer, il y a certains supermarchés qui commencent à tester ça, des capteurs et des caméras dans les supermarchés qui vont analyser en temps réel les flux de passants à l'entrée, aux caisses, dans les différents rayons, pour anticiper les foules aux différentes caisses. Et donc pour optimiser le nombre de personnes que vous mettez à la caisse à chaque instant.
Sachant qu'un vieux compte double. Excusez-moi. Pardon, mais mieux vaut un jeune avec un caddie rempli qu'un vieux avec un panier.
Alors, c'est pas là, j'allais vous dire, je sais pas si ça va.
Ah bah si.
Je sais pas si ça va jusqu'à ce niveau de détail. Ça prend quand même en compte le fait qu'une personne a un caddie, un panier, ou se balade les mains dans les poches. Parce qu'effectivement, c'est pas la même chose. Mais vous êtes raison, peut-être qu'il pourrait y avoir une pondération par
âge. Et puis, ces caddies sophistiqués, pour les gens un peu âgés qui sont pas forcément très numériquement agiles, ça va être compliqué.
Ils ont juste à regarder sur un écran.
C'est pas très compliqué. Parce que pour le coup, dès que tu mets un produit dans le panier, c'est pris en compte.
Tu contrôles ton budget. Franchement, c'est très bien. Parce que souvent, t'arrives à la caisse à la fin et tu dis, ah, j'avais pas pensé à tout ça.
T'évites les mauvaises surprises.
Là, vraiment, c'est pas mal.
En attendant, alors les supermarchés Amazon Go, vous savez, les supermarchés autonomes, enfin, j'en ferai une autre chronique, ça, parce qu'il y a plein de tests en France qui seront complètement autonomes, où là, c'est les caméras qui analysent tout ce que vous prenez dans le supermarché, mais ça prendra quelques années avant de se déployer. Donc, ces caddies, c'est une option assez intéressante.
Mais ça arrive quand, là, ces caddies? Moi, j'aime bien.
Bah, c'est déjà déployé aux États-Unis. Je sais qu'il y a une start-up française qui s'appelle Knap qui a mis au point un caddie un petit peu comme celui-ci. Donc, bah voilà, faut attendre que les groupes de distribution commencent à l'adopter, mais je pense que ça va pas tarder, hein.
Alors au rayon innovation, on va aussi avoir des robots tentateurs qui nous suivront partout dans les rayons.
En quoi ça consiste ? Ça, c'est l'enfer. C'est testé aussi aux États-Unis. Imaginez, si c'est pas vous qui allez aux friandises, c'est le rayon friandises qui vient.
Non.
Et donc ils ont mis au point. C'est un petit R2D2, quoi. Vraiment un petit robot cylindrique.
Comme les anciennes ouvreuses au cinéma.
Bah c'est un peu ça. Ouais. Alors et donc il va vous suivre en fait dans le magasin tout simplement, ce machin, avec voilà des barres chocolatées, des chewing-gums. Il s'arrête devant vous. Si ouais, vous êtes un petit peu tenté, bah il s'arrête. Hein. Voilà, il s'arrête net et puis vous fait un petit regard tout mignon du genre bah vas-y non mais achète, il y a pas de souci. Ouais, parce que comme il y a de plus en plus de caisses vous savez, de caisses automatiques, donc ouais, on a moins de temps d'attente avec tous les rayons tentateurs, vous savez. Ah, mais je prendrais bien un petit paquet de chewing gum. Ah oui, puis j'ai oublié là les petites menthes, etc. Et donc du coup, bah pour compenser ça, c'est le robot qui vient vous tenter directement. Malin, redoutable. Là encore, voilà, le supermarché du futur, ça va être de l'intelligence artificielle, mais ça va être aussi des tentations auxquelles il va falloir résister. Hein.
Et comme par hasard, ça vient des États-Unis.
Comme par hasard.
Est-ce qu'on peut insulter le robot?
Vous pouvez l'insulter toujours. Alors là, il répond pas, c'est l'avantage du robot.
Anthony Morel, on parle de quoi demain?
On parle de quoi demain? C'est une bonne question. Oh, oui. Si, bah si, avec la grève, on va s'intéresser justement aux applications qui vous permettent de vous déplacer plus facilement. Grève ou pas d'ailleurs, mais enfin voilà.
Ah bah écoutez, super. J'en ai téléchargé une la semaine dernière, on m'a dit que ça existe depuis 10 ans, j'étais tellement contente.
C'était laquelle?
City Mapper,
génial.
Bah voilà, c'est ça.
Bah, on va en reparler. Ah, c'est une très très bonne application. Oui, ça existe depuis très longtemps.
Oui, on m'a expliqué que j'étais pas du tout comme à chaque fois.
Oui, mais tout le monde la connaît pas, c'est vrai.
Voilà. Enfin, les gens de mon âge nous la connaissent.
C'est pour ça que je fais cette chronique.
Estelle découvre l'ordinateur.
Bah, merci à vous.
Anthony, mon supermarché derrière Estelle.
Ouais, exactement. Dans un instant, on parlera de ces plus de 200 migrants bloqués sur un navire humanitaire au large de l'Italie. La France doit-elle les accueillir? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.